C'est où ça? Tout ça. Mais dans les deux cas, c'est dans l'existence que cela se passe. L'existence, c'est-à-dire ce monde-ci comme préalable au monde à venir.
J'ai tout de suite une formule avant de rentrer le texte du Ramchal, qui est la suivante. C'est que tout se passe comme si, au niveau du projet du Créateur, ce n'est pas ce monde-ci qui a été voulu. C'est le monde à venir. C'est le Ramaba qui a voulu être créé. L'objet de la Marchevet Abria, l'objet de la Marchevet Aboré, de la Kavanat Abria dans le langage du Ramchal, tout le monde entend bien les termes, l'objet du projet du Créateur, c'est le monde du bien absolu. Sinon, il y aurait de nouveau et perpétuellement contradiction entre la définition du Créateur et l'état de sa créature. Si c'est vrai, s'il est vrai que c'est lui qui m'a créé, je n'ai pas le droit de dire, sous peine de blasphème, que je suis dans l'état où il a voulu me créer. Parce que ça renverrait au Créateur une image de sa créature contradictoire avec sa propre définition. C'est bien clair ? Je vais pousser les choses à la limite. Il me suffit d'entrevoir par hypothèse ce que je viens de formuler pour être certain qu'il en est ainsi. Parce que s'il n'en était pas ainsi, je ne serais pas capable de le dire. Est-ce que c'est clair que... Attends, non, les questions, c'est à la fin du séminaire, parce que sinon... si à la fin du cours, mon son n'est pas resté clair, mais si c'est une question incidente, est-ce que toutes les notions sont claires jusque-là? Ça veut dire que Olamazé est donc un stade nécessaire mais provisoire du monde que le Créateur voulait créer. Voilà ce que je voulais dire, mais et pourquoi Olamazé? Pour résoudre ce problème de la définition de la réception de l'être. La réception de l'être n'est achevée que lorsqu'elle est méritée. Il faut donc commencer par la mériter. Le plus avancé d'entre vous, du point de vue du vocabulaire progressif, vous pouvez entendre plus facilement cette phrase que j'ai essayé d'exprimer le plus clairement possible, c'est que ce que nous appelons la midat ad-din, la mesure du jugement, la mesure qui réclame le mérite, la mesure à la mesure de laquelle le mérite est jugé, accompagne ce monde-ci, et elle disparaît dans le monde à venir, dans tous les textes. Enfin, nous savons des textes. C'est-à-dire, je citerai un des versets en l'expliquant de ce point de vue, Hachem levado vayomahu. En ce jour-là, Hachem seul. Qu'est-ce que ça veut dire Hachem seul? Il n'y aura plus le mot Elohim qui désigne la Minatan. Dans ce monde-ci, c'est Hachem Elohim. Et nous avons à répéter pour nous en persuader, à cause des apparences, Hachem ou Elohim, c'est Hachem qui est Elohim. Et puis, pourquoi? Parce que ce monde-ci nous renvoie l'apparence d'Elohim. Alors il faut donc répéter, Hachem ou Elohim. Ce n'est pas Elohim qui est Elohim, c'est Hachem qui est Elohim. Et puis finalement, Bayom Mahou, il y a Hachem ou Shmoechal, mais l'expression Hachem Nevado, Hachem seul. Est-ce que c'est clair? Je vous ai dit, pas la lecture Pshat, c'est la lecture du Sod, enfin de la Kabbalah, mais c'est beaucoup plus simple. Et je referme cette parenthèse. Alors nous étions la phrase Imti. Dieu a fait exister une première forme d'existence qui est ce monde-ci, qui est l'occasion de exercer cette fonction du mérite. Ce que j'ai dit tout à l'heure me semble très important. C'est le fait d'exister qui pose ce problème. Et deux voies vont s'ouvrir. Le Midrashim, du Talmud en particulier, en parle abondamment. Le chemin qui est plein de cailloux, on dit, parsemé d'embûches, et c'est à la fin qu'il y a le jardin, ou bien le chemin qui commence par le jardin, mais à la fin il y a le précipice. C'est les deux voies possibles. Alors, netake, ma sheeno tsarir hu, de faire un tikkun dont lui n'a pas besoin. Parce qu'il suffit de vouloir créer l'autre pour que l'autre soit créé au niveau de son projet dans la plénitude absolue, dans le monde des béatitudes. Donc lui n'a pas besoin du tikkun, mais c'est la créature qui a besoin du tikkun pour acquérir le mérite d'être. Ou bien, tikkunam auto-iskun. Veu, l'exil, a la Mercè, incolora. Et ça veut dire, c'est la raison pour laquelle nous avons créé ce monde que nous appelons ce monde-ci, dans sa multiplicité et verticale et horizontale, si j'ose dire, la multiplicité des mondes de la médiation entre l'être infini et l'être fini que nous sommes, et d'autre part la multiplicité de l'être fini en lui-même. Voilà donc la première référence. Je vais la résumer par une formule unique, si j'y arrive. C'est que la dimension du mal s'attache à la nécessité d'avoir à mériter l'être pour pouvoir l'obtenir vraiment. Le mécanisme en a été, si nous avons un peu étudié la dernière fois, le tzimtzum, et surtout là, je suis rattaqué. Je vais avancer dans ces citations, et simplement en vous donnant de mémoire une citation dans la Maseret Brachot, page 9b, où on apprend que le roi David, dans les psaumes, n'a pu prononcer le mot de Hallelujah que lorsqu'il a vu un mot sans mal. Voici quelle est la formule. Le roi David a dû dire 103, qui sont 104 d'ailleurs. 103, 104, parachiot, des lignes, des psaumes, avant de pouvoir dire le mot de Hallelujah. Que signifie cet enseignement? Le mot de Hallelujah désigne la possibilité de dire la louange de Dieu. Littéralement, Alléluia signifie louer Dieu. La question qu'il y a derrière, c'est une référence parmi d'autres. La question qu'il y a derrière, est-il possible de louer Dieu tant que son monde est dans l'état où il est? Revient ici une pudeur spirituelle de la liturgie qui est très importante. C'est-à-dire que, à moins de savoir ce que l'on dit, et au-delà des apparences, louer Dieu du monde dans l'état où il est, c'est un blasphème. Vous voyez jusqu'où va la lucidité de cette tradition. Le verset est le suivant. « Itamu hataim min haaretz, urshaim od enam, barechi nafshi et hachem, hallelujah. » Ça veut dire, à la fin du verset, après avoir dit 103, qui sont 104 chapitres, de la prophétie du roi David sur l'état du monde, et il a pu enfin dire le hallelujah. Lorsqu'il a pu dire que les fautes disparaissent de la terre, alors il n'y aura plus de fauteurs, de pécheurs. Bénis mon âme, que mon âme bénisse Dieu, alléluia, louez Dieu. En hébreu, louer, ça veut dire définir. La louange exacte, c'est la définition même. Si on dit plus, c'est on a dit moins, et si on a dit moins, bien sûr qu'on a dit moins. Donc la véritable définition, c'est la véritable louange, c'est la définition. Alors, on ne peut pas dire la véritable louange de Dieu, le définir qu'il est le créateur de ce monde, tant que ce monde est ce qu'il est. Ce n'est que à travers sa vision prophétique, David voit un monde débarrassé du mal, alors il peut dire Alléluia. Ça, vous rattachez cette référence, en particulier au diagnostic, dans la première analyse, que la Kabbalah ne veut pas du tout esquiver ce problème, ou Boré va. Je vais citer le verset d'Isaïe. Et vous savez que dans la liturgie, dans les brachot du Kriyat Shema, on a transformé ce verset. Au lieu de le citer exactement comme il est écrit dans le prophète, ou Boré Ra, les rédacteurs de la Tfila ont mis ou Boré et Akol. Ce qui donne un chinouch assez important. Ça veut dire que dans le tout et qui crée tout, tout ça implique et qui crée le mal. Ça veut dire que dans le tout, il ne peut pas ne pas y avoir la dimension du mal. C'est ce qui est indiqué par cette traduction, c'est que l'objectif de ce changement de terme du prophète, c'est qu'on était dans l'atmosphère culturelle ambiante d'un dualisme absolu. C'était le temps de l'Empire perse, et vous savez de quelle nature était la religion des anciens perses. Et c'est contre la mentalité culturelle ambiante que la formulation des brachot du Kriyat Shema a été donnée. Que celui qui a créé la lumière est celui qui a créé l'obscurité. Que celui qui fait la paix, qui donne la paix, est celui qui crée le mal. Et il y a une opposition culturelle telle qu'on risquait, pas l'excommunication, ça a été la même tradition, mais la censure. Et vous savez à quel point nous avons traversé des temps de ce genre. À l'époque, il s'agissait de la domination perse sur Israël. Et puis, troisième référence sur cette première analyse, je vous la donnerai cette fois dans le Varmachan de Bratislava, en relisant quatre lignes. Si vous voulez la référence, ça se passe à la page 43B de la deuxième partie du côté noir. Voilà ce que son élève, Rabbi Natan, a écrit à son propos. On a parlé de ce monde-ci et du monde à venir. À ce propos, Anna Ve'amar Rabbi Nozal, notre maître, a dit à ce propos, tout le monde parle de cela. Tout le monde dit qu'il y a ce monde-ci et le monde à venir. Mais en ce qui concerne le monde à venir, on croit qu'il y a un monde à venir. On y croit, vraiment. C'est pas qu'on suppose. On le croit. Ça veut dire c'est vraisemblable, un monde à venir. C'est-à-dire un monde où toutes les contradictions se réconcilient, et en particulier la nôtre. Un monde comme ça, c'est clair, le monde à venir. Il est possible aussi qu'il y ait un second signe, dans quelque monde que ce soit, sous-entendu, mais pas chez nous. Ça veut dire que notre monde est tel que même la notion d'un second signe n'est pas compatible. J'ai compris, c'est-à-dire que Olamazé, peut-être ça existe quelque part sur une planète quelconque. Okay. On continue. Gamken Bezer Olam, qui Bekam, car là où nous sommes, il est chez moi, Guéhinom. Il semblerait que c'est l'enfer. Oui, juste là. Qui coula Mérim et Sourim, car tous sont pleins de Sourim, c'est pas la peine de traduire. Ve'ama, et il a ajouté chez En Nimsa Shum Olamazé Klal, qu'en réalité, il n'y a pas de Olamazé du tout. Et j'ajouterai une petite clause, pour expliquer ça. Peut-être attaché à l'enseignement du Talmud concernant les temps messianiques. C'est dans les temps messianiques le Olamazé est Olamazé dans sa définition vraisemblable. Et les Talmud et Hachamim, comme le Rav Nachman de Bratislav, je me réfère au Talmud, font l'impasse sur les temps messianiques. De ce Gehinnom dont ils parlent, ils vont directement à Olamazé. Mais la notion d'un Olamazé cohérent, ça, c'est le Olamazé tel que l'ont vu les prophètes dans les temps messianiques. Je pense que c'est suffisamment clair pour situer notre problème. Notre problème de la dimension du mal concerne Olamazé. C'est donc le projet du créé qui entraîne la nécessité préalable de ce que nous avons déjà appris comme résultat de Shvirat HaKelim, et avec une dimension nouvelle qui apparaît ce soir, c'est la dimension de la finalité. Si on comprend bien le projet du Créateur, alors il est nécessaire de passer par là. Boré, Ra. C'est pas que dans la création il y ait du mal pour nous permettre de choisir entre le mal et le bien. Ça, c'est les théodicées qui enseignent comme ça. Hein? Que si Dieu a créé le mal, c'est que le mal est un bien ultime. Parce que grâce à lui, on peut choisir le bien. Okay? Ça esquive le problème. Je pense que c'est pas la peine de revenir sur les analyses du donné. Là, le problème est rencontré face à face. Le mal a sa réalité propre parce qu'il s'attache au stade préalable, appelé Olamazé, du processus qui correspond au projet du Créateur, du processus de l'acquisition de l'être. Tout cela pour aménager la deuxième partie de la réponse ultime. Voici donc les trois citations que je voulais faire. Pour introduire finalement l'analyse, puis maintenant on peut être plus bref, sur le premier point, sur la première notion, unité et multiplicité. C'est-à-dire le seul fait de créer, j'aborde le deuxième niveau d'analyse, le seul fait de créer fait que le créer, la créature, et nous avons appris dans son premier stade d'être, sera inévitablement entaché de mal parce qu'elle ne sera pas le créateur. Je veux dire ici, l'analyse est facile à entendre. Pour que l'être autre soit autre que Dieu, il faut qu'il soit autre. Mais il n'y a pas d'autre manière d'être autre que d'être moins. Et dès ce moins apparaît la dimension de notre problème. Est-ce que c'est bien clair? Parce que s'il n'était pas moins, il ne serait pas autre. Et s'il ne serait pas autre, il ne serait pas du tout, puisqu'il serait confondu dans l'être du Créateur. Ceci éclaire facilement le verset d'Isaïe, « Boré par ». Boré, c'est boré par, définition. Ce que nous avons appris entre-temps, c'est que c'est provisoire, d'où nécessaire, mais provisoire. J'espère que cette expression contradictoire en elle-même pour la logique aristotélicienne commence à devenir un peu plus claire. C'est de l'idée du bien qu'il faut faire apparaître la nécessité du mal. Si on explique la nécessité du mal en dehors de l'idée du bien, le problème n'est pas résolu. C'est de l'idée du bien elle-même que la Kabbalah fait surgir la notion du mal nécessaire mais provisoire. Alors, nous sommes maintenant au niveau de l'analyse ontologique. C'est le fait que la créature est autre que le créateur qui fait que la créature est du côté du mal, sinon elle ne serait pas. Et nous verrons comment, assez rapidement, tout à l'heure, comment le Rav Ashlag va mettre cela en forme. Et c'est cette différence-là entre le créateur et la créature qui va se refléter, j'y ai fait allusion tout à l'heure, dans la multiplicité des créatures entre elles. Vous vous souvenez des degrés de l'éloignement dans le halal, les degrés de l'éloignement qui font apparaître les différents niveaux des kélim, des véhicules de la présence, de la lumière qui revient pour susciter l'existence des créatures. Et dès l'origine, c'est la différence entre l'être créateur et l'être créé qui fait que dans l'être créé, il y aura multiplicité. D'où le lien entre les multiplicités de moins en moins, de plus en plus éloignées. D'où le lien entre la notion de l'unité et la multiplicité et d'autre part, le problème du mal. Mais là, va apparaître une objection, si l'analyse est suffisamment claire jusque-là, va apparaître une objection fondamentale. N'y aurait-il pas eu possibilité qu'il y ait différence, qu'il y ait infini de niveaux dans la multiplicité des créatures, chacune étant au stade de son point de départ d'acquisition du mérite, si nous projetons l'infini vertical des différences de degrés où se situent les êtres du monde créé, si nous les projetons à l'horizontale, eh bien, nous avons la multiplicité. Cette multiplicité, le nombre, le grand nombre, renvoie à la racine, à une seule ligne verticale, mais à des niveaux différents. Et n'y aurait-il pas eu moyen que tout ceci se passe dans le côté du bien? Est-ce que la notion du moins bien n'aurait-elle pas suffi? Pourquoi faut-il qu'il y ait mal vraiment? Est-ce que c'est clair jusque-là? Et là, vous devinez que nous abordons déjà notre deuxième notion, l'autre côté, la Sitra Achra et les Klipot. Tout ce que j'ai dit jusqu'à présent ressort de la notion de Shvirat HaKelim. Vous comprenez quel est le lien direct entre l'éclatement des Kelim, tant qu'ils n'ont pas encore mérité leur être. Vous vous rappelez de l'équivalence Zechut Zakut. Vous vous rappelez de cela? Tant qu'il n'y a pas suffisamment de transparence pour faire que l'unité de la lumière passe, alors il y a éclatement dans la multiplicité, chacun au niveau partiel où il se trouve. Tout cela ressort de la spiritualité. Alors que nous avons un niveau beaucoup plus grave de l'apparition du mal, qui est d'ailleurs préalable logiquement, mais pour la commodité pédagogique, j'ai mis en second lieu, et qui est, lui, qui trouve sa racine dans le halal lui-même. Ça veut dire dans le vide de l'être qui était nécessaire pour que le monde soit logé quelque part. Et à ce propos, ça nous servira de transition entre les deux analyses. Le Rav Nachman de Breslav dit aussi, le mal qu'il y a dans le monde comme résultat de la Shvirat HaKelim, on peut finalement le comprendre. Et le comprendre dans le sens étymologique, l'intégrer. Ça ne fait pas problème au-delà d'une difficulté à résoudre. Le mal qui vient du halal, celui-là, on ne peut pas le comprendre. parce que c'est le halal qui fait exister l'autre côté du monde. Et alors que la Shmirat HaKelim explique le désordre du côté du bien qu'il faut restaurer. Mais le halal, l'être privé de l'être, comme lieu d'existence de l'être qui reçoit l'être, c'est lui qui va risquer de tirer de son côté l'être qui a échoué et qui finalement s'érige en contre-monde, je n'ai pas dit en anti-dieu, en autre côté du monde. Littéralement, les kabbalistes ont choisi, ont préféré de formuler cela en araméen, mais pas en hébreu, « Atzad Aher ». Et en araméen, cela devient la Sitra Ahram. C'est la même chose qu'en hébreu, Tzal Ahram, l'autre côté du monde. Voilà quel est le minimum d'explication commune à tous les enseignements à ce sujet. Étant donné que notre monde est suspendu au vide pour pouvoir exister, résultat des analyses de la fois précédente, vous rappelez de cela? Oui. Étant donné cela, toute valeur d'être donnée à l'être qui reçoit l'être, tout ce que propose comme être le Créateur dont la définition est de donner l'être, plus exactement en hébreu, tout shefa qui vient du Créateur à la créature, shin pe ayin, shefa, c'est intraduisible, donc je le dis en hébreu, c'est-à-dire le flux d'être qui vient de celui qui donne à celui qui reçoit et qui se trouve être, ne serait-ce qu'en gouttelette, séparée de sa source, de son origine, va s'autonomiser. Et il s'autonomise en volonté de recevoir l'être, mais coupée de la source de celui qui donne l'être, et c'est l'origine radicale, ontologique, plus forte encore que dans l'analyse précédente, du mal en soi qui s'attache au monde. Cette sitra ahra disparaît avec Aolam Hazeh, avec ce monde-ci. Mais elle est autre chose que le côté de rigueur du côté de sainteté. Je veux dire, la dialectique entre le bien et le mal, c'est pas entre chesed et din. Chesed et din sont du côté du bien. La dialectique est entre l'ensemble des valeurs du bien, et selon le verset de Michelet, qu'ont l'habitude de citer les Mkoubalim, qui zé, les Omadze, Asa et Lokin, nous allons avoir deux registres, deux séries. Ce qui peut advenir de mal, comme résultat de Shvirat HaKelim dans le côté de la sainteté, et qu'on appellera les clipotes. Et ce qui arrive de l'autre côté du monde, qu'on appelle plutôt la Touma, l'impureté, et qui est ce fait que toute valeur proposée à l'être qui reçoit l'être, et qui va être dérobée de sa source, coupée de sa source, autonomisée dans le geste de l'appétit égoïste, c'est-à-dire recevoir, mais pas du tout dans l'intention de mériter. Et l'ordre du mérite, nous le verrons dans le prochain cours, c'est de redonner. Cette dialectique est très simple. Comment mériter? En donnant à son tour. Et donc, recevoir pour recevoir et non pas recevoir pour retransmettre, s'autonomise et devient l'autre côté du monde. Voilà, je crois, plus que toute analyse, la formule d'un texte du Rav Ashlag, cette fois que je vais vous lire, et qu'il explique, donc, comme j'ai essayé de l'indiquer de façon très claire. Tout ce qui est donné en tant que bien. Le Talmud dit déjà, En ra yoret min hashamayim. Le mal ne descend pas, j'allais dire, ne tombe pas du ciel. C'est en arrivant sur terre que la distribution mal-bien se fait, suivant l'attitude du keli, du véhicule de réception. Le vocabulaire n'est pas trop compliqué. La règle, finalement, est très simple. C'est que toute valeur du bien qui est coupée de la volonté du Créateur, qui consiste de donner en vue que ce soit un bien, et ça devient un bien de façon ultime que si c'est mérité, donc toute valeur, c'est-à-dire toute valeur du bien, qui est reçue pas en vue d'être méritée, se transforme en ce que l'on appelle l'autre côté du monde. Elle s'autonomise et devient la volonté du mal. Cela est vrai au niveau de l'organisation des mondes, et cela est vrai au niveau de l'homme. Avant de vous lire ce texte, qui nous servira de pré-conclusion, je dis ça pour que vous ayez la patience de supporter l'atmosphère, je voudrais simplement indiquer un enseignement qui est aussi commun à tous les kabbalistes de l'école de Safed, de façon explicite, la racine de cet enseignement étant déjà dans le Nahmanim, est déjà indiquée dans le Ramchal, mais c'est surtout dans la Kabbalah du Hari que cela a été le plus exprimé, c'est ceci. La grande dignité de l'homme, qui est la seule créature qui supporte tout cet édifice. Parce qu'en dehors de l'homme, il y a la citra de la Kedusha et la citra Ahra, séparée. Mais l'homme les relie. En l'homme, les deux se relient. C'est l'homme qui a le privilège, et je ne sais pas comment dire le devoir, la prérogative, mais le privilège de pouvoir faire que la circulation de l'être aille du côté de Olam Haba et pas du côté de Gehinnom. C'est-à-dire, les deux manières d'être de ce qui est donné sont là, objectivement. L'être qui est donné est tout bien. Tant qu'il n'est pas mérité, il est tout mal. Et c'est l'homme qui a le pouvoir de transformer du bien en mal et du mal en bien. Est-ce que c'est clair jusque-là ? Bon, je crois que c'est sous l'exergue de cette formule que nous pouvons lire ce texte du Rabbi Shlag. Et je terminerai par une citation du Talmud sur la notion que je viens d'indiquer en conclusion, qui est la notion du Yetzer Hara. Jusque-là, on a parlé du mal dans le monde, et qui est la véritable question. Et ensuite, je parlerai au niveau de la conclusion du Yetzer Hara, en le rattachant au verset d'Isaïe. Nous avons été créés comme une capacité de vouloir le mal, éventuellement. Et c'est le Yetzer Hara qui est la prérogative de l'homme, qui, s'il arrive à le transformer en Yetzer Hara, il sauve le monde. Si au contraire, il trébuche, on dit, il échoue, alors c'est son Yetzer Hara qui se transforme en Yetzer Hara et il perd le monde. Vous pouvez organiser autour de cette formule l'immense immensité des enseignements et parts qui ont été donnés dans toutes les sources à ce sujet. Voici quel est ce texte, un peu plus long que celui de tout à l'heure, dont j'essaierai de ne pas ouvrir de parenthèse, et on terminera par le texte du Talmud concernant les Yetzer Hara. Maintenant, nous est ouverte la porte pour comprendre à Hakira, à Aï, cette recherche que nous entreprenons, et comment est-il possible qu'est apparu à partir de la sainteté de Dieu, le sujet de l'organisation de l'impureté, l'autre côté, la Sitra Ahra, et des Klipot. J'ai parlé de gouttelettes tout à l'heure. Imaginez chacune de ces gouttelettes de sainteté, de gouttelettes de lumière, enfin vous comprenez l'image, qui s'autonomise, qui se coupe de sa source. Alors, elle va s'enrober d'une gangue d'impureté, et dans le côté de la sainteté, elle va être là comme l'obstacle à l'harmonie du monde. Et ça, c'est les clipotes. Et alors que la Touma, c'est l'autre côté en soi. Comment comprendre que de la volonté du Créateur et de sa sainteté est procédé l'impureté qu'il y a dans le monde, dans les deux dimensions du monde. Et comment est-il possible qu'il la laisse exister, qu'il la nourrisse pour exister et qu'il la fasse exister? Et au niveau de l'homme, et ça éclairera en haut, au niveau de l'homme, cela nous est dit de la manière suivante. Si un homme fait une bonne action, il acquiert un srout, alors il permet à plus de chefards de venir, il permet à plus d'être donné, d'être reçu. Et alors il nourrit le côté du bien, il agrandit le côté du bien. S'il fait une mauvaise action, il dérobe de la lumière qui le fait être, et il la donne à l'autre côté, et il nourrit le côté du mal. Je pense que c'est suffisamment clair. Mais, encore une fois, ce n'est pas lui qui l'a fait, ce côté du bien ou ce côté du mal. Là, nous sommes en dehors de la théodicée, en dehors du dualisme. Ce n'est pas l'homme qui est responsable qu'il y ait cette problématique. C'est le projet du créé qui en est ainsi, qui fait qu'il en est ainsi. Mais la grande dignité et prérogative de l'homme, c'est que la clé lui est transmise. Parce qu'il est la seule des créatures de participer de l'un et de l'autre côté à la fois. Par son corps, qui est le keli, il procède du halal, et par son âme, qui est le haut, il procède du haut, de la hatzilut. Et il a la capacité de faire passer l'un à l'autre, et réciproquement. Maintenant, et tu sauras à ce propos, chez E, Aratzon et Kabel Agado, chez Amarnou, que cette volonté de recevoir l'être qui fait la créature, dont nous avons parlé précédemment ici dans son propre chapitre, et qui est l'essence même des âmes du côté du fait d'avoir été créé, de leur côté de créature, qui a été car ainsi, plus elles ont de capacité de vouloir recevoir l'être, plus elles correspondent à l'intention du créateur, marché vetabria, Cela, cette capacité de vouloir recevoir ne veut pas rester dans l'état où elle est. Car il en est ainsi, s'il en était ainsi, dit le Rav Ashbach, de toute éternité, les âmes créées seraient séparées du Créateur. Le changement de la forme dans le sens total du terme de forme, de l'être donnant à l'être recevant, ce changement-là les séparerait radicalement du Créateur. Pour délétaquer d'avoir à Pirulazé, pour arranger cette impasse, j'ai pas traduit littéralement, mais vous comprenez l'idée, que délétaquer d'avoir à Pirulazé, pour empêcher cette séparation totale, à Mounahara Kedish la Neshamot, qui est le destin des véhicules de réception de l'âme, des kelim de Neshamot, Barak Barak et Kola Kola Mot Kulam. Dieu a créé tous les mondes dont nous parlons, les mondes qui sont médiation entre lui et les créatures. Et il les a séparés en deux ensembles. Chez Abba Olamot Iklusha, qui sont les quatre mondes de la sainteté, les mondes de la médiation entre le Ensof et nous, Atzilut, Ria, Etzira, Asiya, du côté de la sainteté, où on attarde, et par rapport à eux, et d'autre part, Arba Olamot Abiyar de Touma, les quatre mondes de l'impureté. Et il a donné la volonté de donner le Ratzon, les Hashpiyar, la volonté de donner l'être aux côtés de la sainteté et la volonté de recevoir l'être aux côtés de l'impureté. C'est-à-dire que lorsqu'elles sont séparées, le projet de la création n'est pas encore abouti. Et encore une fois, la dignité de l'homme parmi les créatures est d'être celui qui fait le lien dans ce fait mystérieux de la relation entre le corps et l'âme et l'âme et le corps, entre les deux côtés du monde, et qui fait que le monde se mérite à travers lui, comme je l'ai déjà indiqué tout à l'heure. Alors je termine par une citation du Talmud qui se trouve dans la Maseret Kiddushin, à la page 30b, la Mad B, et qui dit ceci. Avant la Kadosh Baruch Hu et Israël, Dieu a dit à Israël, Barati et Tserara, j'ai créé l'instinct du mal, ça veut dire dans notre langage le Ratzon Nekabel, la volonté de recevoir a priori même de mériter, plus encore la volonté de recevoir pour en jouir et non pas en le méritant. Baratilo Torah Tavlin, et je lui ai créé, O et Tserara, la Torah comme épice adoucissante, je ne sais pas comment dire, tabline. Okay. Comment traduire cela ?
Épice,
ça suffit pas, enfin, comme épice.
Antidote,
très bien. Et on cite tous les versets qui ont été dits à Caïn avec tout un programme. Vous verrez dans le texte, Kiddushin, la meuf, bête. La question que cette formule fait apparaître, c'est que s'il était nécessaire d'avoir la Torah comme antidote du Yetzirah, pourquoi ne pas créer Yetzirara ? Et alors, à ce moment-là, on n'aurait pas eu besoin de Torah comme antidote, mais au moins on n'aurait pas eu Yetzirara. Comme s'il y avait une nécessité de créer le Yetzirara. Est-ce que c'est clair ? Parce que sinon, ça veut dire que cette formule véhicule une invraisemblance, la Torah ne sert qu'à être la troufa, le remède du Yetzirara. Alors ne crée pas le Yetzirara, et alors quoi ? Je n'aurais pas besoin de Torah ? Point d'interrogation. Donc il faut remettre les choses à l'endroit. C'est clair jusque-là comme objection. Dire, il a fallu créer le Yetzer Hara pour que les créatures puissent exister. je ne reprends pas toute l'analyse, mais vous la récapitulez dans votre esprit. Okay. Et alors, comme le Yetzirahar, c'est très mauvais, il lui faut une antidote. Est-ce que c'est clair? Mais ce qu'il fallait créer, premièrement, c'est le Yetzirahar. C'est-à-dire, il y a un autre texte dans Talmud qui dit, si le Yetzirahar s'arrête d'opérer, il n'y a plus de vie, il n'y a plus d'existence. Le Zohar, lui, l'image, il donne comme image à sa manière, de la manière suivante. Il dit, si nous nous connaissons vraiment du côté de notre âme, nous savons que chaque fois qu'elle veut quelque chose, c'est le contraire de ce que le corps veut. Alors, pareil, c'est clair, si nous nous connaissons bien du côté de notre corps, nous savons que chaque chose que le corps veut, c'est le contraire de ce que l'âme voudrait. Par conséquent, par hypothèse, le Yetzirahar est du côté du corps. Mais c'est grâce au corps que notre âme est ici. C'est clair ? Nous dit, si on enlève le Yetzirahar à la Neshama, elle a un seul souci, de remonter là-haut. Pour l'obliger à rester en bas, il faut lui donner le Yetzirahar. Donc la création, c'est le Yetzirahar. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Vous comprenez ? Par conséquent, ce Yetzirahar-là est indispensable pour que j'existe. Il y a un autre passage du Talmud qui dit une fois les Juifs ont prié, enlève-nous le Yetzirahar. Et Dieu a dit, je ne peux pas. Finalement, ils ont insisté, ils ont dit, bon, vous allez voir. Il a enlevé le Yetzirahar. Et la Gemara, avec un humour extraordinaire, dit, ils ont trouvé plus d'œufs sur le marché. Ça veut dire que la vie s'est arrêtée. Vous connaissez ce midrash. Donc le Yetzirahar est nécessaire, provisoire, mais nécessaire, pour que la Neshama consente à rester dans notre monde, là où elle a l'occasion de se mériter. Vous voyez que finalement, c'est pas difficile. C'est pas difficile à comprendre, à faire, c'est l'existence. Et comme le Yetzirahar, c'est amer, dit le texte, c'est mauvais. Alors, pour nous consoler de cette amertume, pour le transfigurer, ce Yetzirahar, on nous a donné la Torah. Qui, au niveau de la définition Hormat HaKabbalah, nous apprend à transformer le Ratzon Nekabel en Ratzon Nehashpia. Ça s'appelle les mitzvot. Comment ça fonctionne, il faut étudier. C'est clair. Mais nous avons au moins une ma'arechet simple pour nous faire comprendre. Je reprends cette définition. Dieu a dit à Israël, je vous ai créé le Yetzirahar, oui, mais je vous ai donné comme remède la Torah. Ça veut dire que nous avons deux voies possibles. Ou bien l'existence nue, comme j'ai dit tout à l'heure. Et c'est à travers l'existence nue que toute créature joue le jeu d'acquérir son être. Et ça, c'est le monde plein de Issourine, dont a parlé le Rav Ashlag tout à l'heure. Vous rappelez de... Ou bien, à travers la Torah, alors même en lamazé, devient vivant. Voilà à peu près la conclusion que je vous donne. La prochaine fois, je n'ai pas terminé, nous allons étudier l'aventure de la restauration des mondes de Tikkun, c'est-à-dire comment le monde redevient vivable. Et avant cela, je voudrais vous faire une communication. Nous avons reçu, il y a quelques jours, une communication d'un comité espagnol de la ville de Gérone, là où était Nahmani, l'école des kabbalistes de Gérone. Ils vont être en voyage dans les jours qui viennent, et ils proposent de faire au Centre Yahir, en français d'ailleurs, une conférence illustrée de diapositives sur la restauration du quartier des kabbalistes de Gérone. Alors, si cela vous intéresse, cette séance aura lieu dimanche qui vient à 5h30. C'est bien ça, on passe hein? Non, mais qu'est-ce que Claire dit parce qu'elle est là. Est-ce que Claire est là? Combien de temps ça va durer? 1 heure. Alors à 5h30. Alors c'est dimanche à 5h30. Alors avant 20h.
On peut traduire en condiment peut-être? Tavlin, on peut traduire en condiment?